Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. Œuvres d'art volées pendant la période nazie, l'enjeu moral de leur restitution. Avec Elisabeth Royer. Les prédations et vols d'œuvres d'art sont choses fréquentes pendant les périodes de guerre. Mais elles n'ont jamais été conduites à l'époque récente de façon aussi systématique que par le pouvoir nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. À la volonté habituelle de dépouiller l'ennemi se sont ajoutées l'ambition de faire disparaître un certain type d'art moderne des collections publiques et des collections privées et des pratiques commerciales sans scrupules. 70 ans après la fin de la guerre, beaucoup d'œuvres d'art volées n'ont toujours pas été rendues aux descendants de leurs propriétaires légitimes. Même si la cause paraît avoir une valeur morale évidente au vu de la justice, lui sont aujourd'hui opposées des considérations, peut-être de prescription, et en tout cas une assez grande indifférence. Comment instruire ce débat ? Merci Elisabeth Royer d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes plus que légitime pour évoquer cette question. Marchande d'art, historienne, vous vous consacrez depuis 1996 à alerter l'opinion sur la nécessité de conduire des recherches concernant les tableaux volés pendant l'occupation par les nazis. Et vous avez participé très activement à la restitution d'une trentaine d'entre eux. Vous avez en tout cas montré qu'il était possible de retrouver les propriétaires, du moins les descendants des propriétaires. Merci donc d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, la question de la restitution des œuvres d'art volées par les nazis se pose dans un contexte infiniment plus favorable à ce genre de problématique. Il y a une conscience sur le fait que, en tout cas pour ce qui a trait aux œuvres d'art volées, aux exportations illégales, aux œuvres prises de force, lors de conflits, il y a nécessité de poser un certain nombre de questions sur la légitimité de leur restitution. Mais le cas des œuvres d'art volées par les nazis est-il un cas à part dans ce contexte général plus favorable aux restitutions ?
En France, quand il s'est agi de rendre les objets volés par les nazis, les ambiguïtés de l'occupation et de la politique étatique de Vichy ont compliqué les choses. L'affaire Gurlitt a relancé le débat des restitutions. Gurlitt, c'est un recycleur, comme il y en a eu beaucoup, à partir des années 30. Donc ce n'est pas une affaire française ni une affaire allemande, c'est une affaire européenne, puisque les tableaux achetés de façon illégitime en France, allaient en Suisse, revenaient en France, pouvaient aller en Hollande, en Belgique, en Italie, et circulaient dans tous ces pays. Donc Gurlitt a acheté à partir des années 30 en Allemagne. À partir de 1933, évidemment, ce qu'il a acheté n'était pas acheté de façon légitime. Il a ensuite fait des achats dans les ventes dégénérées et sur le second marché à Paris. Le second marché, ce que j'appelle le second marché, ce sont les marchands. Quand les nazis pillaient, les tableaux partaient au jeu de paume, parfois à l'ambassade, parfois faisaient un aller-retour entre le jeu de paume et l'ambassade. Et il y avait des marchands qui achetaient directement au jeu de paume. Et Gurlitt a acheté chez ces marchands.
Donc Hildebrand Gurlitt, un marchand d'art, ancien directeur de musée dans plusieurs villes d'Allemagne, un personnage trouble et que, au fond, qui était bien connu. Qui était bien connu parmi les acheteurs qui s'intéressaient aux œuvres spoliées. Parce que dès que les Allemands sont arrivés à Paris, ils sont arrivés avec une liste d'œuvres, d'ailleurs, de même que lorsqu'ils ont envahi la Belgique. Ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils connaissaient les endroits où ils pouvaient trouver des tableaux, à la fois dans des musées, mais lorsqu'elles n'avaient pas été mises à l'abri, mais aussi chez des collectionneurs privés.
Oui, chez les collectionneurs privés, c'est parce qu'il y avait des dénonciations. Sinon, ils n'avaient aucun moyen de le savoir, quand les objets étaient cachés. Et Gurlitt a été l'un des marchands, mais il y en a eu beaucoup. Le marché de la guerre à Paris, pendant l'occupation, a été extrêmement actif.
Mais alors, qu'est-ce qui se passait ? Au fond, dès l'arrivée des Allemands à Paris, les spoliations ont commencé ?
L'ERR a commencé à vider les maisons des grands collectionneurs, comme Kahn, Rothschild, David Veil, Bacri, en faisant une première liste manuscrite. Ensuite, la liste était retapée. Et tout cela était très organisé. Certains tableaux étaient vendus au jeu de paume ou quand les appartements ou les maisons étaient réquisitionnés, certains objets pouvaient aussi être vendus sur place. Certains pouvaient aussi être volés par les Français.
Donc au jeu de paume, une partie de ces tableaux était, on n'ose pas dire exposés, mais en tout cas en transit.
Oui.
Et était préparé pour expédition en Allemagne.
Absolument.
Pour du moins ceux qui n'étaient pas vendus, immédiatement achetés par des marchands trafiquants comme Gurlitt. Donc quelles étaient les destinations en Allemagne ?
Alors il y avait le musée de Linz.
Là, ça c'était le musée de Hitler, enfin le musée que Absolument. Hitler pensait construire en Autriche.
Tout à fait. Il y avait Göring, il y avait aussi énormément d'échanges. Puisque les Allemands préféraient les adorations des mages à un tableau de Picasso ou de Matisse. Et il y avait donc cette femme, Rose Vallant, qui était attachée au jeu de paume, qui avait l'œil sur ce que faisaient les nazis pendant la guerre et qui notait les échanges sur des carnets. Les nazis, comme Haberstock par exemple, échangeaient des tableaux modernes contre des tableaux anciens. Le braque du centre Pompidou, par exemple, avait été échangé avec un Matisse contre une adoration des mages.
Alors, Hector Feliciano, le musée disparu. C'est un livre qui Absolument. A eu un considérable impact au moment où il a été publié.
Énorme. C'est-à-dire que toutes les familles ont commencé à rechercher leurs tableaux et ensuite le soufflet est retombé puisqu'il y a eu un grand mouvement de l'État. Il y avait eu en 1995 le discours de Jacques Chirac qui reconnaissait la responsabilité du régime de Vichy. Il y avait eu la commission Matteoli qui s'était mise en place. Et ensuite, de nouveau, il a fallu attendre l'affaire Gurlitt pour que l'État manifeste une volonté réelle de faire des recherches.
Alors, vous avez mentionné tout à l'heure le ERS, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Alors, ce qui a rendu difficile, enfin quasi impraticable les restitutions jusqu'à présent, puisque je crois que depuis 1950, 35-40 ont été restitués sur les 2000 qui sont avec le statut de propriétaire ou descendant de propriétaire non identifié.
C'est ça ? Absolument. Mais c'est là où le bât blesse, parce que dès la libération et jusqu'à nos jours, l'attitude de l'État a été extrêmement passive. Donc ces tableaux MNR ont été déposés dans les musées, mais aucune recherche très poussée n'a été faite pour essayer de rechercher les propriétaires.
Alors les propriétaires souvent n'existent plus, parce que beaucoup ont été déportés, tués ou alors tout simplement sont morts. Leurs descendants n'ont peut-être pas toutes les preuves pour attester que le tableau appartenait.
Alors n'ont pas toujours toutes les preuves, mais il faut penser que la commission de récupération artistique après la guerre, a rendu un certain nombre de tableaux et n'a pas continué le travail et a interrompu le travail. Donc il existe quand même des listes qui étaient déposées au départ dans les musées, qui ont ensuite été à Perfit, à Nantes, qui ont atterri au ministère des Affaires étrangères. Et quand on croise ces listes de restitution avec certains inventaires et les demandes des ayants droit directs, si à l'époque le travail avait été fait, on aurait pu retrouver les propriétaires.
Et ceux qu'on a retrouvés, parce que quand même, beaucoup de tableaux ont été rendus lorsqu'ils sont revenus d'Allemagne.
Un certain nombre de tableaux ont été rendus, oui. Mais ils étaient quand même obligés de les rendre.
Oui, parce que ceux-là, on les connaissait quand même, ces tableaux. Et les carnets de Rose Vallant ont servi pour les restitutions de ces tableaux.
Absolument. Ils ont servi, mais toutes les archives de Rose Vallant n'ont pas été suffisamment dépouillées, organisées et surtout, il n'y a pas eu une réelle communication.
Alors, peut-être que certains de nos auditeurs, là, puisque nous sommes en avril 2014, ont eu la curiosité d'aller voir Monuments Men, le film de George Clooney, qui est un peu surprenant, parce que ça se réfère à cette histoire, mais avec, disons, une adaptation historique qui parfois tourne véritablement à la fantaisie. Il reste que dans ce film est représenté d'abord l'engagement des Américains, de ces 300 spécialistes d'art pour essayer de retrouver ces tableaux et leur quête à travers l'Allemagne. Parce que ces tableaux, où étaient-ils quand ils étaient envoyés en Allemagne? Où sont-ils arrivés en fait?
Les Américains, leur volonté n'était pas toujours de récupérer ces tableaux pour les restituer.
C'était d'abord pour éviter que les Soviétiques ne s'en emparent.
Voilà, c'était pour s'en emparer avant. Et Truman, sur le sujet, était quand même très clair.
Enfin, cela dit, quand les Soviétiques se sont emparés de tableaux, parce qu'il y en a certains qu'ils ont pris dans la partie de l'Allemagne qui leur était, sur lesquels ils ont exercé une forme de souveraineté pendant longtemps, eux n'ont absolument pas pratiqué les restitutions à qui que ce soit.
Mais les Soviétiques sont très clairs sur le sujet. Pour eux, ce sont des butins de guerre. Après ce que les Allemands leur ont fait subir, ils disent qu'ils veulent garder ces tableaux. Ils ne veulent absolument pas les restituer. Il y a eu une exposition il y a quelques années à l'Ermitage. Et pour eux, ce sont des butins de guerre.
Mais même butins de guerre par rapport à si, que ne remonte-t-il à l'étape d'avant, c'est-à-dire les personnes auxquelles ont été ravis ces tableaux?
Mais ce n'est pas le sujet des Russes. Mais vous savez, l'Amérique, qui est donc les Américains sont toujours présentés comme les grands sauveurs. Ils le sont d'ailleurs dans ce film des Monuments Men. Mais encore aujourd'hui, il est extrêmement difficile de récupérer un tableau qui a été spolié aux États-Unis. Et pourtant, c'est le pays où on trouve le plus grand nombre d'associations, soi-disant en faveur des restitutions.
Ça, c'est peut-être un décalage qui existe entre la conscience de la société civile américaine et puis la force des institutions, qui, en particulier des grandes institutions muséales, oui. Quand elles ont un tableau, pour diverses raisons, elles considèrent que le tableau, qui est une forme de patrimoine universel, est beaucoup mieux gardé chez elles que chez des propriétaires privés, peut-être.
Absolument, mais ils n'hésitent pas à changer des provenances, à occulter des provenances. Ils font partie des 44 pays qui ont signé les accords de Washington et ils ne les respectent pas.
Alors, juste un mot sur ce qui s'est passé en Allemagne, en tout cas quand ce groupe d'historiens a récupéré un certain nombre de ces tableaux, une quantité assez considérable. Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils ont cherché immédiatement à les restituer ou à trouver les propriétaires?
Les Monuments Men, effectivement, ont refusé, dans un premier temps, de rendre 115 tableaux à Gurlitt. Parce qu'un agent de Rosevalent, Dubinsky, les avait alertés sur l'origine non légitime de ces achats. 2 ans après, on ne sait pas pourquoi, ils ont rendu les tableaux à Gurlitt. Par lassitude, par insistance de Gurlitt, par décision des services secrets américains, on ne le sait pas et il n'y a aucune trace de ces restitutions.
Et beaucoup des tableaux qui ont été rendus étaient évidemment des tableaux spoliés ou acquis dans des circonstances qui étaient complètement
illégitimes,
dans la guerre et dans le fait que les propriétaires juifs étaient obligés de les vendre, ou même que ces tableaux avaient été purement et simplement spoliés. Alors, Hildebrand Gurlitt est mort dans les années 50, et c'est son fils qui a hérité cette quantité de tableaux. Ils étaient quand même assez nombreux, nombreuses aquarelles de Courbet et toutes sortes d'objets d'art que la police allemande a découvert dans un appartement de Munich il y a un an et demi ou 2 ans. C'est plus à la suite d'une...
Oui, il y a plus de 2 ans.
Soupçon de transfert d'argent de Suisse en Allemagne. Et c'est comme ça que, enfin, c'est des sortes d'êtres venus du passé de l'Allemagne, et, en tout cas par son père de l'Allemagne nazie, s'est retrouvé dans la lumière de l'actualité, dans une époque qu'il avait un peu traversée en fantôme. Quand même.
Ce qui est très étonnant, c'est que le fils de Gurlitt ait gardé tous ses tableaux, en est très peu vendu, conservés dans des conditions assez précaires. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les historiens allemand ne l'ait pas contacté avant parce que Gurlitt était dans le bottin, bah, avec une adresse.
Tout le monde le connaissait, Gurlitt, surtout n'importe qui s'intéressait à ce qui s'était passé en Allemagne, dans le monde de l'art, tombé sur Gurlitt.
Donc quelqu'un aurait pu lui téléphoner avant pour faire une enquête, ou un journaliste, on aurait pu essayer de savoir. Il avait une adresse, il n'était pas déclaré aux impôts, il n'avait pas de... Mais il avait une adresse, il était dans le bottin de Munich et on pouvait le trouver.
Mais souvent, le meilleur moyen d'être invisible, c'est de sembler tout à fait conforme.
C'est vrai.
Mais est-ce qu'il y a d'autres cas Gurlitt en Allemagne? Parce que beaucoup de tableaux ont disparu. Il y a beaucoup de tableaux dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On sait qu'ils sont arrivés en Allemagne, mais après, on a perdu leurs traces.
Oui, et en Autriche. Un certain nombre de tableaux sont passés par Nikolsburg. Il y a un inventaire. On ne sait pas où est l'inventaire. Il y a eu un feu. Rose Vallant parle très longuement de ces inventaires après, avant Nikolsburg et après. On dit souvent qu'un certain nombre de tableaux sont partis en Russie, mais combien restent-ils peut-être dans les caves des musées autrichiens, on ne sait pas.
A-t-on un descriptif très précis des tableaux qui ont été retrouvés, par exemple à Neuschwanstein ou dans d'autres endroits, ou dans la mine de sel de Thuringe? Est-ce que les monuments, enfin les monumentsmen, en tout cas ceux qui ont retrouvé ces tableaux, ont fait une liste très précise de ces tableaux?
Il y a énormément de documents, énormément de listes partout. Ce qu'il faut, c'est croiser ces listes, les vérifier. Les attributions des tableaux pour la peinture ancienne, évidemment, ce ne sont plus les mêmes maintenant, mais les documents existent. Il suffit de travailler, de les ouvrir, de les communiquer.
Mais c'est ce que vous avez essayé de faire, ou ce que vous essayez de faire avec votre initiative, le Holocaust Art Restitution Project.
Absolument, c'est ce que nous essayons de faire. Essayons de communiquer le plus possible les documents que nous avons. Nous sommes en train de faire une base de données. Nous avons énormément de dossiers Excel sur les marchands et sur les tableaux qui ont disparu. Et ça nous permet de communiquer aux familles qui recherchent des tableaux leurs documents que souvent ils n'ont pas.
Mais vous avez contribué donc avec une prise de conscience de plus en plus nette et puis la dramatisation récente de l'affaire Gurlitt à renverser la tendance, c'est-à-dire que l'État, enfin au sens large, c'est-à-dire les musées qui gardent ces tableaux pour l'instant n'attendent pas simplement que les descendants des propriétaires se manifestent avec des preuves adéquates, mais commencent à s'engager dans des démarches plus actives pour essayer de retrouver les...
Alors ça, ce n'est pas l'État. C'est Aurélie Filippetti, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Elle est quand même ministre.
Donc c'est la ministre de la Culture. Oui, mais il faut faire quand même une grande différence.
Sur la personnalité
parce que,
et l'engagement en
voilà. Donc il y a d'abord, alors quand on parle d'État, il y a la CVS, c'est-à-dire le Comité d'indemnisation des victimes de spoliation. Donc Jean-Pierre Badi a été le premier à relancer le débat sur les restitutions. Mais... Il a été suivi par Corinne Bouchoux, cette sénatrice du Maine-et-Loire, qui nous a beaucoup aidés tous, et ensuite par Aurélie Filippetti.
Alors j'ai appris récemment, par exemple, que la conservatrice du musée d'Angers, si je ne me trompe, s'était engagée dans une démarche très marquée.
Ariane James Sarrazin.
À diffuser de manière vraiment le plus énergique possible toutes sortes d'informations sur les tableaux qu'elle a en dépôt, donc ces tableaux aux propriétaires ou descendants propriétaires non identifiés, en espérant ainsi attirer l'attention d'un éventuel descendant qui reconnaîtrait un tableau dont il a entendu parler dans l'appartement de son grand-père ou sa grand-mère et qui pourrait se manifester. Ça, c'est une démarche dont on n'a pas vu beaucoup de parallèles jusqu'à présent.
Non, c'est une démarche assez exemplaire. Et je crois que Thierry Bajou, qui est conservateur du patrimoine et qui s'occupe des MNR, a fait les recherches pour le musée d'Angers. Et c'est effectivement assez exemplaire.
Mais alors, quels sont les arguments qu'on vous oppose? Est-ce que, par exemple, l'argument de la prescription, mais il y a si longtemps, maintenant il faut en sortir de cette histoire, les vies ont été refaites, cette époque tragique est soldée, nous sommes dans une période quasi de paix perpétuelle en Europe, ne remuons pas ce passé, l'histoire régulièrement retourne les droits de propriété, et voilà, on est dans une nouvelle époque. Que vaut cet argument?
Alors cet argument ne vaut rien du tout pour moi, pour deux raisons. Alors d'abord, il y a le droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prescription pour les crimes de guerre en France. Et il faudrait effectivement que toutes ces histoires de restitution s'arrêtent, mais elles ne pourront s'arrêter que quand les archives auront été ouvertes. Pour l'instant, les archives ont été malmenées, désorganisées, fermées, donc on ne peut absolument pas dire qu'il faut arrêter les restitutions. Donc, c'est impossible. C'est-à-dire que, est-ce que c'est moralement juste de garder un bien qui a été volé par les nazis ? Et est-ce que c'est éthique de la part de l'État de ne rien faire pour restituer les tableaux ?
À la limite, on pourrait décider que il n'y a pas de justice dans l'histoire. À un moment, il faut mettre un terme. Mais pas au prix de la connaissance et pas au prix de la vérité. Là, on peut reprendre l'inspiration de Paul Ricoeur. D'abord, le devoir d'histoire. Et c'est uniquement quand le devoir d'histoire, c'est-à-dire d'élucidation du passé, a été poussé aussi loin que possible, qu'à ce moment-là, on peut ensemble décider de mettre un terme.
Mais le devoir d'histoire n'a pas été fait.
C'est ça le premier manque.
C'est le premier manque. Et c'est ce qui conduit d'ailleurs à un relent d'antisémitisme. Car on entend beaucoup, mais comment ces tableaux valent de l'argent ? On parle d'autres spoliations de propriétaires qui achèteraient les tableaux de façon tout à fait légitime maintenant et à qui on voudrait les reprendre.
Alors, un autre argument, souvent avancé, de dire, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer ? On va leur rendre aux descendants, qui d'ailleurs, de toute façon, ont refait leur vie, ils sont dans tout autre contexte, souvent aux États-Unis, plus rien à voir avec que l'époque nazie. Et que vont-ils faire dès qu'ils auront récupéré ces tableaux, qui sont aujourd'hui dans des musées, là tout le grand public peut les voir, et bien dès qu'ils les auront récupérés, ils vont les vendre à des marchands et ils vont se retrouver dans des collections de milliardaires, plus personne ne pourrait l'avoir. Ça, c'est un argument qu'on entend parfois.
C'est un argument assez épouvantable. À partir du moment où un tableau a été acquis de façon illégitime, il doit retourner à son propriétaire et le propriétaire en fait ce qu'il veut. On entend souvent un argument assez douteux qui est « oui, c'est soi-disant pour la mémoire et les ayants droit vendent les tableaux ». Mais comme l'État n'a pas fait...
Ça s'est fait, le fameux tableau d'Adèle Bloch, là, de Klimt, dès que la petite nièce, je crois, l'a récupérée, elle l'a immédiatement vendue.
Madame Altman. Alors l'histoire de Madame Altman, il faut la connaître. Madame Altman, au départ, ne voulait pas ses Klimt. Elle voulait une rente extrêmement faible. Les Autrichiens ont refusé. Et un avocat américain lui a fait une proposition, lui a dit « Voilà, je vous récupère vos tableaux, on partage. » Et c'est ça l'histoire d'Adèle Bloch.
Et le donc, musée du Belvédère a que perdu son Klimt.
Oui, non, mais que l'on puisse dire « Elle vend ses tableaux », c'est assez inadmissible quand même.
Oui, enfin, en tout cas, c'est la présentation qui en est souvent donnée. D'ailleurs, c'est un cas un peu théorique. Dans la plupart des situations concrètes, ça se termine sur une transaction où les descendants sont indemnisés. Et parfois, le tableau reste où il est, où il est en dépôt. Il appartient aux descendants, mais il reste en dépôt dans le musée. Ça arrive aussi. Toutes sortes d'arrangements sont concevables.
Oui, mais pourquoi n'a-t-on pas fait les recherches à l'époque ? Est-ce qu'on devait le faire ? Est-ce qu'on pouvait le faire ?
Alors pourquoi ? Pourquoi ça a été interrompu ? Est-ce que dans les années 50, on s'est dit que ça suffit, maintenant on se concentre sur la guerre froide, la lutte contre le communisme, on s'occupe plus de...
Je crois que d'abord le ministère des Finances ne voulait plus donner d'argent pour la CRA, donc la CRA s'est arrêtée.
La CRA, c'est
la commission de récupération artistique. Et puis, je crois que politiquement, ça n'intéresse personne.
Alors, juste question renouvelée, pourquoi maintenant ? Pourquoi c'est 70 ans après qu'on se dit que s'il n'en règle pas maintenant, on ne le réglera jamais ? Et qu'il faut le régler ?
Mais maintenant, c'est parce qu'ils sont obligés de le faire, parce qu'il y a eu tous ces articles, parce que la France, on reparle énormément du régime de Vichy, de la culpabilité de l'État français.
Mais comment expliquer que c'est 70 ans après qu'on se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé au juste, quels ont été les faits, connaissant enfin l'histoire ? C'est étonnant quand même, 70 ans après. Pourquoi si longtemps pour enfin avoir le courage de poser la question de la vérité ?
Mais ils n'ont pas le courage, ils le font uniquement parce qu'il y a eu cette affaire Gurlitt.
Alors vous êtes extrêmement actif, qu'est-ce qui se passe en Allemagne ? Parce qu'en Allemagne, on a des sites de chasseurs de plagiat, n'importe quel homme politique ou femme politique qui a eu malheur de faire une thèse doit justifier que ce n'est pas un plagiat. Et s'il y a un mot repris d'un travail antérieur, risque de se trouver à la sorte de potence et livre en pâture à l'opinion publique. Pourquoi n'y a-t-il pas des sites qui vont chercher parce que tous ceux qui étaient dans le marché de l'art ou qui pouvaient éventuellement avoir acheté des tableaux à Paris, on connaît les noms quand même, les historiens ont travaillé là-dessus. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas une recherche active en termes de, en mobilisant tous les moyens de communication et de diffusion des informations ? Parce que comme vous le disiez,
alors c'est un gros
travail. On aurait pu le trouver il y a longtemps.
Bien sûr, mais c'est un gros travail aussi qui aurait dû être fait à l'époque. Par exemple en France, si on avait croisé les listes ERR avec les listes de restitution et donné la description de tous les tableaux, faire une base de données, donner aux héritiers leurs archives qui étaient déposées au ministère des Affaires étrangères, effectivement, certains ayants droit avaient encore la mémoire et les restitutions auraient été beaucoup plus faciles. Alors maintenant, évidemment, de nombreux cabinets qui prennent entre 30 et 50% se font les intermédiaires, ce qui est beaucoup plus difficile de trouver des arrangements. Quand quelqu'un a acheté un tableau de façon tout à fait légitime, une somme importante en vente publique ou chez un marchand, souvent on fait un partage, mais quand il y a un intermédiaire qui prend entre 30 et 50%, le partage est plus difficile.
Bien, donc il y a une force d'ensevelissement du temps, forcément. Et c'est à rebours de cela qu'il faut aller pour poser les questions de vérité et de devoir d'histoire, encore une fois, qui auraient dû être posées dans les années d'après-guerre.
Oui, qui auraient dû être faites surtout par les gouvernements. On a souvent parlé en France de ces ventes des domaines après la guerre que l'État avait fait. On ne sait toujours pas où sont les archives, on ne sait toujours pas qui a acheté les tableaux. Et quand on interroge Bercy... les archives n'existent pas.
Alors ça, c'est un autre sujet. On aura peut-être l'occasion, on en parlait dans Question d'éthique, en effet, des milliers de documents qui ont été rapatriés d'Allemagne et vendus parce qu'ils étaient jugés sans intérêt. Et les archives qui, de ces relatifs à ces ventes...
Est-ce que c'est éthique, puisque vous en parlez, de malmener les archives et de ne pas les communiquer ?
Assurément pas, et certainement contraire à ce devoir de mémoire dont nous parlions tout à l'heure. Merci Elisabeth Royer pour cet entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Bruno Mourlan qui était à la technique. Merci à Marie Dalquier. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet qui touche directement à la défense de la liberté individuelle et à la déontologie de certaines professions qui reposent sur la valeur du secret professionnel. Écoutez les citoyens, écoutez les avocats, jusqu'où faut-il aller ? Et Henri Leclerc sera mon invité. Tout de suite, vous retrouverez Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain à la même heure. D'ici là, très bonne semaine à tous.